Place publique.
Avec, pour commencer, un débat sur l'avenir de l'hôpital de Moutier, deux élus au conseil de ville seront avec nous dans un instant. Et comme le démontre l'actualité de ces derniers jours, l'établissement joue sa survie alors que la concurrence médicale est acharnée et que l'incertitude est bien sûr toujours de mise en matière d'appartenance cantonale. Les Bernois ont refusé de baisser le montant de l'aide sociale en votation, c'était ce dimanche. Une bonne nouvelle pour les plus défavorisés, c'est ce que nous dira Thérèse Froch, l'actuelle coprésidente de la Conférence Suisse des Institutions d'Action Sociale, la CSIAS, dont on a beaucoup parlé durant la campagne. Nous verrons avec elle quelles leçons tirer de ce scrutin pour toute la Suisse. Votation toujours, faut-il soumettre les multinationales basées dans notre pays à des règles plus strictes en matière de respect des droits humains et de protection de l'environnement? Le peuple pourrait avoir aussi son mot à dire sur cette question l'année prochaine et on en débat d'ici une vingtaine de minutes avec une membre du comité d'initiative pour des multinationales responsables, Chantal Payer, ainsi qu'avec Fabio Bongiovanni, conseiller communal en ville de Neuchâtel.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Quel avenir pour le site hospitalier de Moutier? Son sort semble plus incertain que jamais. Les responsables de l'hôpital du Jura bernois misent sur la création d'un pôle de psychiatrie et sur le développement d'une polyclinique. Mais le projet ne plaît pas à tout le monde. Certains exigent le maintien d'un service d'urgence et de soins aigus. La position des autorités bernoises, elle, est attendue d'ici la fin du mois. Le tout sur fond de tensions politiques liées à l'appartenance cantonale de la ville et de forte concurrence. En témoigne l'annonce du jour du projet de l'hôpital de Bienne qui imagine lui aussi concentrer les soins psychiatriques pour l'ensemble de la région jusqu'à Porrentruy. Dans ces conditions, Moutier peut-elle garder son hôpital et si oui, à quelles conditions? On en débat avec deux conseillers de ville. André Piguet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller de ville PLR à Moutier, bien sûr aussi médecin au centre médical Médicentre. Et Julien Berthol également avec nous. Vous êtes conseiller de ville PCSI à Moutier. Alors on va commencer avec vous, André Piguet. Le site de Moutier pourrait servir à la réhabilitation de patients, tandis que la psychiatrie francophone serait gérée par l'hôpital de Bienne. Ça, c'est le dernier scénario évoqué ce matin par le CHB dans la presse. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Une légère surprise, c'est même plutôt une agréable surprise. En fait, pour nous, il n'y avait pas qu'un scénario possible, il y en avait plusieurs. En particulier, je peux évoquer ici les scénarios de rachat par un groupe externe ou bien un ménage à trois avec les deux cantons et puis un groupe externe aussi. Et puis voilà maintenant qu'on nous présente un troisième scénario ou un quatrième scénario en l'occurrence qui englobe cette fois bien, la psychiatrie universitaire. Tout ça, au fond, montre que le dossier n'est pas clos et qu'il est encore possible de discuter des options pour l'avenir de l'hôpital de Moutier.
Julien Berthold, au nom de l'entente jurassienne, vous soutenez le projet qui a été présenté ces derniers jours visant à développer les soins psychiatriques à Moutier et pas ailleurs, mais sachant que d'autres hôpitaux comme à Bienne s'intéressent à ce créneau, est-ce que vraiment le site de Moutier a un avenir?
Bah écoutez, cette solution qui est sortie un peu du chapeau aujourd'hui, mais c'est un peu sceptique quand même. J'ai un peu du mal à imaginer une psychiatrie bilingue. J'ai un peu du mal à imaginer un avantage quand même. Et de plus, en tant qu'élu prévôtois, bah, je préfère évidemment que les emplois restent quand même à Moutier plutôt que partir à Bienne. Je pense que ça devrait être la préoccupation principale des élus prévôtois.
Vous misez sur les emplois avant tout?
Tout à fait, oui.
Par rapport à l'offre de cet hôpital, on va dire vos adversaires, en tout cas du côté anti-séparatiste, on insiste pour que les soins aigus soient maintenus, pour que de véritables urgences, jour et nuit, soient maintenues aussi. Est-ce que vous ne partagez pas ce point de vue? Est-ce que ça ne doit pas être votre préoccupation première?
Alors écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la planification hospitalière doit être vue de manière globale. On ne peut pas avoir des hôpitaux partout qui ont toutes les prestations. Ce n'est pas du tout réaliste. On le voit avec l'hôpital de Moutier qui fait maintenant du déficit. Je pense qu'il faut réorganiser ça et puis avoir des pôles de compétences. On devrait plutôt viser à avoir vraiment une excellence dans certains pôles et un moyen de rediriger les gens vers les pôles qui sont pôles d'excellence. Puis je pense que Moutier pourrait devenir un pôle pour la psychiatrie, justement.
André Piguet, une réaction de votre part. L'AJB, finalement, est dépendant de contraintes qui le dépassent, qui dépassent la simple ville de Moutier. Est-ce qu'il n'est pas plus sage de miser sur un pôle qui rassemble au-delà du bassin de population prévôtois?
Certainement, mais est-ce que vous savez que pendant des décennies, maintenant, nous avons eu un hôpital qui était florissant. Nous avons fait 1 million de bénéfices il y a encore 3 ans. Nous perdons des sous maintenant. Cette excellence, nous l'avions jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à qu'on nous donne un coup d'arrêt au mois de juin 2018. Ce que la population prévotoise doit savoir, c'est que ce qu'on nous prépare actuellement, c'est tout de même une diminution importante des prestations qui auront une influence sur la vie quotidienne des gens. On a maintenant 53 lits aigus ici à Moutier. On nous en promet une dizaine, à tout casser, une quinzaine. On aura un peu moins de lits DMS également. Et puis alors, toute la problématique des urgences, des urgences qui, jusqu'à maintenant, pouvaient rendre service à la population 24 heures sur 24, ce ne sera évidemment plus le cas plus tard avec les projets qui nous sont présentés.
Mais la question du maintien de soins aigus ou d'urgence se pose partout, pas qu'à Moutier. Est-ce que c'est vraiment le vote communaliste qui a créé cette situation, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un contexte bien plus large qui concerne tous les établissements de pareille taille?
Alors, bien sûr que ça concerne tous les établissements, c'est certain. Mais il n'empêche que jusqu'à maintenant, nous avions un hôpital qui fonctionnait bien. Dans ces circonstances-là, nous avons trouvé, et le conseil d'administration avait trouvé une solution très élégante avec l'hôpital de Saint-Imier. On a fait venir des gens brillants de l'extérieur pour pouvoir animer des services de pointe. On a équipé l'hôpital avec des excellents appareils. Les gens sont là, les appareils sont là, on fonctionnait bien, et c'était un modèle qu'on aurait pu continuer grâce à tout ce qu'on a fait ces dernières années, grâce au soutien des médecins de ville également. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est tout remis en question.
Julien Berthold, il y a un avant et il y a un après vote du 18 juin. Apparemment, cette incertitude autour de l'appartenance cantonale, ce vote, a pesé lourd sur le destin de l'hôpital de Moutier. Apparemment, du côté antiséparatiste, on l'a vu venir.
Alors, je pense pas du tout que les gens ne vont plus à l'hôpital de Moutier parce que pour une raison d'appartenance communale. Mais j'aurais peut-être une question pour Monsieur Piguet. Selon vous, quelle est la mission vraiment d'un hôpital? Est-ce que c'est de se vanter de pouvoir avoir des spécialistes dans tous les domaines à l'appel, ou bien est-ce qu'il doit vraiment remplir une vraie mission de santé publique qui consiste à être dans les besoins de la population et puis à rediriger vers des centres où il y aura des spécialistes qui sont qualifiés? Ça ne sert à rien, à mon avis, d'avoir vraiment à Moutier toutes les spécialités. Autant se spécialiser dans un domaine. La piste qui est évoquée, la psychiatrie, en est une. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est une piste qui au moins mérite d'exister.
Mais André Piguet, lui, nous parle d'une période florissante jusqu'à il y a peu. Julien Berthold, est-ce que ce n'était pas possible quand même de continuer, de poursuivre sur cette lancée? Est-ce qu'il n'y a pas eu malgré tout un effet vote communaliste?
Alors, la période florissante, je pense que les chiffres se laissent toujours écrire et un peu manipuler comme on le veut. On peut remarquer en 2017, on peut regarder en 2017, les comptes de l'hôpital étaient déjà déficitaires, mais ont réussi à être remontés dans le positif en vendant la partie radiologie de l'hôpital. Donc je pense que au bout d'un moment, il faut quand même se faire une raison et puis faire quelque chose pour cette solution hospitalière.
Mais Monsieur Berthold, il faut quand même savoir que 90% de la pathologie peut être traitée dans des petits hôpitaux comme les nôtres. 90% de la pathologie, c'est de la pathologie simple. Ce sont des pneumonies et des appendicites qui sont exactement ce qu'on traite dans des hôpitaux régionaux. Bien sûr que les opérations du cœur, du cerveau, on va les envoyer ailleurs. Mais nous avons besoin de ce premier échelon qui est extrêmement important et qui correspond exactement aux besoins de la grande, grande, grande majorité de la population qui est vieillissante et qui a besoin de ce genre de soins.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on termine notre débat sur l'avenir du site hospitalier de Moutier avec nos deux invités, deux conseillers de ville dans la prévôté. André Piguet, une question à vous. Finalement, les dirigeants de l'hôpital du Jura bernois n'y vont pas de main morte. Ils disent qu'il faut agir, sinon ce site va mourir, et ont des plans qui ont été finalement concoctés par des spécialistes des deux cantons concernés, de Berne et du Jura. Et ils demandent aussi de garder un certain devoir de réserve au niveau politique et de ne pas instrumentaliser cet hôpital. Est-ce que vous entendez cet appel?
Oui, bien sûr que j'entends, mais je dirais l'instrumentalisation primaire, ça a surtout été l'énorme tromperie d'il y a 2 ans, lorsqu'on nous a dit pas de problème, l'hôpital de Moutier pourra continuer de vivre, on va même progresser, on va même le renforcer. C'est ça C'est ça la première manipulation. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut être réservé parce que ni moi ni personne n'avons la science infuse et il faut être prêt à remettre les choses en perspective, certes, mais on a tout de même le droit, je crois, d'avoir un avis critique vis-à-vis des propositions qui nous sont faites, et c'est ce que nous faisons, même si certainement nous respectons le travail de ce conseil d'administration qui, le pauvre, fait ce qu'il peut, car il faut bien le dire, nous sommes dans une mélasse qui était impensable il y a à peine 3 ans, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on doit trouver effectivement des solutions. On est dans une situation de pompiers, et en l'occurrence, nos adversaires ont eu un comportement de pompiers pyromanes, puisque c'est maintenant vers nous qu'on se tourne pour essayer de trouver des solutions pour éteindre un incendie qu'ils ne maîtrisent pas.
Julien Berthold.
Oui, alors je pense qu'il faut arrêter d'un peu lier toujours la question de l'hôpital avec la question jurassienne. Je ne pense pas que depuis le 18 juin, il y a moins de malades à Moutier ou à la bonne heure. Je pense que maintenant, c'est une réflexion qui est plus globale, qui date pas de la question jurassienne et puis qui doit vraiment être étudiée. Mais la direction de la JB a maintenant réalisé, je pense qu'ils ont quand même fait largement campagne pour le vote du 18 juin dans le code du non. Je pense que maintenant, ils ont réalisé que finalement, ils n'ont plus tellement le choix que de s'allier avec les plus grandes structures pour travailler ensemble.
Et que voyez-vous, pour la suite ? Il y a plusieurs scénarios, on l'a vu, hein, dont un dernier éventé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut attendre, par exemple, du gouvernement bernois, Monsieur Schneck, qui doit rendre une décision, enfin une position par rapport à ce qu'il y a sur la table ? Vous attendez à quoi, Julien Berthold ?
Alors j'espère que le gouvernement bernois va enfin jouer franc jeu sur l'hôpital et puis va se soucier plus de sa mission de santé publique que des répercussions politiques derrière et puis qu'il entre vraiment en discussion avec le canton du Jura pour proposer quelque chose d'intéressant. La piste actuelle de la psychiatrie a le mérite d'exister. Il faut poursuivre, à mon avis, dans l'étude de cette solution-là. C'est pas forcément la solution définitive, mais je pense que cette solution, comme le disait mieux M. Picard, est déjà prête à près de 60%, donc il faut continuer dans cette étude. Il ne faut pas commencer à déjà trouver des alternatives comme ça a été fait avec Bienne, et puis déjà laisser ce groupe de travail travailler de manière indépendante, pas politique, et arriver à quelque chose un projet concret sur lequel on pourra se prononcer vraiment.
André Piguet, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux ? Qu'attendez-vous comme décision de la part de Pierre-Alain Schneck au Conseil exécutif ? C'est attendu ces prochains jours.
Clairement qu'il reprenne les autres opportunités, c'est-à-dire ce que je disais au début, la possibilité d'un achat par un partenaire extérieur, éventuellement un ménage à trois, comme je disais, avec les deux cantons et un repreneur extérieur. Et pourquoi pas, ce qu'on a lu maintenant, aujourd'hui même, cette piste où Bienne et tout le canton de Berne sont impliqués au plan, par exemple, de la psychiatrie.
Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à Place Publique, d'avoir donné votre avis sur cette question de l'avenir du site hospitalier de Moutier. Bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
Les urnes ont rendu leur verdict dimanche. L'aide sociale ne sera pas diminuée dans le canton de Berne. Cette votation donne un signal important, tandis que certains cantons envisagent eux aussi, ou envisageaient eux aussi, d'abaisser l'aide sociale. Reste que le défi de cette aide est de taille à l'heure où le nombre de bénéficiaires âgés de plus de 50 ans est en forte augmentation ces dernières années. On en parle avec vous, Thérèse Freuch. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pour quelques heures encore la coprésidente de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, la CSIAS. Vous serez remplacée, d'ailleurs, on le dit en passant, par la jurassienne Elisabeth Baumschneider. Alors, Thérèse Freuch, votre association, la CSIAS, compte parmi ses membres les cantons, les communes, ainsi que des organisations d'entraide. Et c'est vous, hein, on le rappelle, qui fixez ces fameuses normes pour établir les montants de l'aide sociale alloués par les cantons.
Oui, c'est juste, ce calcul du forfait pour l'entretien repose sur une large base scientifique. Depuis des dizaines d'années, on travaille à ça et nos membres, ce sont vraiment les services sociaux des cantons, des communes, des experts, le département pour les affaires sociales et puis aussi le département fédéral pour les statistiques. Alors c'est vraiment vérifier tout ça et le forfait pour l'entretien est inférieur au montant dépensé par les 10% des ménages aux plus faibles revenus. Alors, une diminution du forfait pour l'entretien est pratiquement, n'est techniquement pas défendable.
Et donc, vous êtes très soulagé après le résultat de dimanche du côté de Berne, la population bernoise qui refuse de baisser ce montant de l'aide sociale, qui a refusé. Pour vous, c'est vraiment une grande victoire ?
C'est une victoire énorme. Il faut voir que le canton de Berne est très bourgeois, très rural, et c'est le deuxième grand canton en Suisse, et normalement très conservateur. Le Parlement est la majorité bourgeoise, aussi le gouvernement. Et souvent, c'est le rural contre les villes. Mais quand il s'agit contre les plus pauvres ou bien des rangs complémentaires ou des votations pour les plus faibles, normalement on n'a jamais vécu ça. Alors on est extrêmement surprise et on est très content. Mais il faut dire aussi que les églises, les organisations, les médias, ils ont beaucoup participé. Il y avait une large discussion publique d'ailleurs qui était reprise dans toute la Suisse parce que c'était un signal ce qui se passait le dimanche passé. Et alors ça permettait aux gens d'avoir vraiment des facts et pas seulement une idéologie, mais de voir de quoi il s'agit, d'étudier, de discuter. Il y avait des lettres de lecteurs. Mmh. Ça, c'était vraiment exemplaire.
Et ça, sur ce point, vous êtes tout à fait en accord avec ce qu'a dit Pierre-Alain Schneck, admettant sa défaite. Il dit quand même, ma victoire est celle d'avoir permis au peuple de se prononcer. Est-ce que pour vous, cette campagne a été utile? Elle a permis justement d'expliquer les enjeux, les faits? Ou au contraire, est-ce qu'elle a aussi quelque part ouvert une boîte de Pandore et brisé un tabou, celui qui fait qu'en votation, on peut s'attaquer au montant de l'aide sociale?
Non, ça je pense pas, parce que quand j'étais élue comme présidente, déjà il y a 4 ans, il y avait déjà l'UDC, surtout de Zurich, qui voulait que les communes et les cantons sortent de la SIASC et baissent les forfaits. Et ça, on a pu vraiment freiner. On a, pendant ces 5 ans passés, on a vraiment maintenu et on a beaucoup informé. On a beaucoup informé aussi sur les situations. Et je pense que c'est pas seulement ça, c'est aussi la situation que, disons, la classe moyenne, beaucoup des jeunes, d'autres personnes voient, aussi réalisent que la pauvreté aujourd'hui, c'est plus seulement un destin individuel, comme c'était peut-être dans les années 70, 70, quand il n'y avait pratiquement personne au chômage. Aujourd'hui, c'est un problème plutôt aussi souvent structurel. On a un tiers des gens aux bénéficiaires de l'aide sociale, ce sont des enfants. On a des divorces, par exemple, les divorces 50%, ça c'est un risque qui n'est pas du tout assuré. Et souvent, les gens, ils ont après besoin de l'aide sociale. Vous voyez, je pense, la situation de la société, ce n'est plus, on n'a plus cet avis que ce sont vraiment que les gens qui ne valent rien et qui ne veulent pas bosser, qui sont à l'aide sociale, mais que c'est vraiment souvent un problème structurel et ça peut arriver à tout le monde.
Cette votation était quand même serrée, hein, 53% contre cette baisse, un peu moins. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'inquiètent de voir les montants de l'aide sociale, en tout cas les bénéficiaires, augmenter, notamment les plus de 50 ans, et qui pensent qu'il faut agir, hein, qu'il faut essayer d'optimiser le système et rendre l'aide sociale pour certains bénéficiaires moins attractive?
Moi, je dois dire, je dirais pas que c'est ridicule, mais je trouve c'est honteux. Parce que dans le canton de Berne, il n'y a pas longtemps, on a baissé les impôts pour les voitures. Après, c'était corrigé, mais seulement pour dire. Dimanche, on a voté pour baisser les impôts pour les multis. Hein. Ça va baisser les impôts pour les entreprises. Et beaucoup de choses comme ça. Alors moi, je trouve que d'épargner sur les épaules des plus pauvres, c'est pas économique. C'est pas du tout économique parce qu'ils existent quand même. Il faut les intégrer, il faut faire tous les progrès, il faut les faire le coaching pour les faire intégrer dans la vie professionnelle et socialement. Parce que si vous voyez, on a un tiers des enfants, il faut pas sacrifier cette génération. Alors moi je trouve que il s'agissait de 5 à 10 millions qu'on épargne. Ça c'est vraiment, moi je trouve plutôt un peu cynique.
Vous pensez pas qu'il existe quand même pour une certaine catégorie de bénéficiaires On a beaucoup parlé durant cette campagne de ces jeunes qui pourraient s'insérer dans le marché du travail et qui, peut-être par effet de seuil, préfèrent toucher l'aide sociale.
Moi, je pense que ce problème, on a aperçu depuis longtemps à la CIAS. Vous voyez, ce n'est pas seulement depuis M. Schneck est là qu'on a la répression, qu'on a les sanctions, qu'on a les incentifs pour ceux qui s'engagent vraiment beaucoup. Ça, la CIAS, ensemble avec les experts, on a introduit ça depuis longtemps. Aujourd'hui, il est possible qu'un jeune, par exemple, je suis tout à fait de votre avis, je partage qu'il n'y a pas de sens qu'un jeune ait à l'aide sociale. Il ne peut pas être à l'aide sociale. Il est sanctionné à 30%. Il est obligé de faire quelque chose. Et on peut déjà maintenant, on peut lui prendre l'aide sociale jusqu'à zéro. Et ça, ce sont vraiment des mythes de dire que les gens peuvent rester vraiment à l'aide sociale et ne faire rien. C'est pas du tout le cas.
Thérèse Froch, le peuple bernois a par contre refusé d'augmenter l'aide sociale pour une certaine catégorie, c'est-à-dire les personnes un peu plus âgées, au-delà de 55 ans. C'est un vrai problème qui dépasse largement les frontières du canton de Berne. Ça se joue au niveau fédéral d'ailleurs. Votre espoir, c'est que des mesures soient prises.
Oui, il y avait ce contre-projet de garder l'aide sociale au niveau actuel et puis élargir les mesures en faveur des chômeurs de longue durée âgés. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment très important parce que aussi ça, c'est très indigne quand les gens qui ont travaillé longtemps, ils ont passé peut-être 55 ans, ils perdent leur travail. Et à cause de leur âge, ils ne trouvent plus rien et ils doivent aller à l'aide sociale. Ça, c'est vraiment très indigne. Nous, on a fait une proposition. On a fait aussi une étude pour ça. On l'a présentée il y a une semaine au Conseil fédéral Berset aussi, d'ailleurs. Et le Conseil fédéral, justement, a proposé maintenant d'aider plus aux gens dans de telles situations, parce que c'est aussi un problème structurel, souvent, à partir de 60 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas passé sur le niveau cantonal, je n'ai pas cru que ça peut passer, parce que ça aurait coûté 10 millions de plus. Mmh. Dans un canton comme Berne, c'est pratiquement impossible. Mais ça a bien permis de discuter aussi ce problème-là. Mmh. Et je suis sûre qu'on trouvera au niveau de la Confédération, on trouvera sûrement des mesures.
Merci infiniment, Thérèse Froch. C'est votre appel, il
Merci
sera peut-être entendu. On le rappelle, hein, vous êtes jusqu'à demain encore la coprésidente de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, la CIAS. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Place publique. Les citoyens suisses ont accepté d'abaisser dimanche dernier, encore des votations bien sûr, la fiscalité des entreprises, la RFFA, qui doit permettre à notre pays de respecter les standards internationaux en matière de taxation des sociétés, tout en restant attractive. Mais pour certains, cette baisse d'impôts doit s'accompagner de devoirs, pas seulement en matière de renflouement de l'AVS, mais aussi en matière de respect des droits humains et environnementaux. Une initiative lancée par plusieurs ONG et portée par et soutenu par plus d'une centaine d'autres, est actuellement débattu aux Chambres fédérales avec une forte probabilité que le peuple ait son mot à dire l'année prochaine. Alors on en parle pour amorcer le débat avec deux invités. Chantal Payère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'équipe entreprise et droits humains pour l'organisation Pain pour le prochain et à ce titre, vous êtes membre du comité d'initiative. Et avec nous également Fabio Bongiovanni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller communal, bien sûr, en ville de Neuchâtel, en charge de l'économie et des finances. Chantal Payère, le vote de dimanche soulage grandement les tenants de l'économie. La Suisse a des arguments pour maintenir les multinationales, notamment sur son sol. Est-ce qu'avec votre initiative, vous ne risquez pas de les faire fuir, sachant que toutes n'ont pas de reproches à se faire en matière de droits humains et environnementaux ?
En fait, cette initiative est plutôt une question de bon sens, c'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté permettre des allègements fiscaux à ces multinationales et de l'autre côté accepter qu'elles ne respectent pas les droits humains et les standards environnementaux à l'étranger. Et l'initiative, tout ce qu'elle demande, c'est que ces firmes tiennent les engagements que par ailleurs beaucoup d'entre elles disent vouloir tenir ou reconnaître, de faire respecter à leurs filiales et à leur chaîne d'approvisionnement les droits fondamentaux fondamentaux les plus élémentaires. Donc, faire respecter le droit à la santé des populations, qu'il n'y ait pas de travail des enfants dans leur filiale au Congo ou ailleurs, par exemple.
Fabio Bongiovanni, on l'entend, hein, au vu des enjeux, éviter par exemple le travail des enfants, la pollution de l'eau, ou encore le mépris de standards environnementaux, est-ce qu'en vue de ces enjeux, il n'est pas temps d'imposer des normes plus strictes aux multinationales ?
Ce qui est évident, c'est en tout cas que la mise en œuvre des droits de l'homme et de l'environnement doit se faire en Suisse et dans le monde entier. En revanche, avec l'initiative qui est proposée, le risque, c'est la course en solitaire qui se ferait avec des normes qui devraient être respectées aussi par l'ensemble des sociétés suisses, sans que ces normes puissent être aussi imposées dans les pays dans lesquels cela se passe, et on risquerait de ne pas atteindre l'objectif qui est souhaité avec des sociétés qui pourraient quitter la Suisse tout simplement, et on n'aurait pas atteint l'objectif qui est de la mise en place de ces droits de l'homme, et en plus l'économie suisse serait fortement impactée par ces départs.
Chantal Payère,
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une tendance internationale très nette qui va vers ce devoir de diligence obligatoire. Et puis aujourd'hui, même beaucoup d'acteurs de l'économie, y compris des entreprises multinationales, soutiennent cette idée et soutiennent l'acceptation, la mise en place d'une législation dans ce domaine en Suisse. On le voit très bien au débat au Parlement. Vous avez plusieurs acteurs importants de l'économie, Migros, Coop, Denner, vous avez le lobby des matières premières, vous avez le groupement des entreprises multinationales qui est basé à Genève avec plus de 92 membres. Tous ces acteurs soutiennent le contre-projet qui est débattu au Parlement et qui demande un devoir de diligence des entreprises suisses. Et en cas de violation grave dans une de leurs filiales à l'étranger, qu'elles soient tenues responsables aussi, ces maisons mères, si elles n'ont pas pris les mesures pour éviter que le dommage se produise. Donc on voit au fond que l'idée est très largement reconnue, y compris par des acteurs de l'économie, et que beaucoup de ces acteurs de l'économie n'auraient aucune crédibilité de dire « mais on va quitter la Suisse parce qu'en fait on ne veut pas respecter les droits humains », parce qu'il y a un réel trend international.
Fabio Bongiovanni, une partie de l'économie soutient un contre-projet, une version un peu allégée, hein, mais quand même d'inspiration claire par rapport à cette initiative. Est-ce que vous, ça ne vous aide pas quand même à vous positionner en faveur d'un pas dans ce sens ?
Alors aujourd'hui, on a effectivement des discussions qui sont encore en cours au Parlement, avec une version qui serait allégée dans un certain nombre de ces exigences. La problématique, pour moi, elle réside dans l'initiative qui est un peu trop contraignante par rapport aux projets qui sont actuellement en discussion au Parlement, qui pourrait, pour moi, être une solution intermédiaire qui permettrait de satisfaire à l'ensemble des parties.
Chantal Payère, qu'on comprenne bien, vous parlez des multinationales responsables, mais lesquelles sont particulièrement visées ?
Il y a plusieurs secteurs. Si vous regardez aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'acheter un bijou en or, d'acheter une montre, d'acheter du chocolat, sans que dans ces produits que chacun de nous achète, il y ait des violations des droits humains. Parce que la production s'est globalisée et que vous avez en Côte d'Ivoire beaucoup d'enfants qui travaillent dans les champs de cacao, au Burkina Faso où beaucoup d'or est importé, 90% de l'or du Burkina Faso est importé en Suisse et puis fondu dans des fonderies suisses, y compris des fonderies basées à Neuchâtel. Et dans ces mines, il y a aussi du travail des enfants, sans parler de déplacements de villages, etc. Donc l'enjeu vraiment fondamental, c'est de dire c'est un choix de société. C'est à nous, citoyens, de définir le cadre dans lequel les entreprises peuvent faire du profit. Et de tout temps, ça a été la société qui a défini ce cadre. Et aujourd'hui, qu'au fond, on a des activités et des filiales que les entreprises suisses contrôlent à l'étranger, il faut aussi qu'on clarifie ce cadre par rapport à leurs filiales à l'étranger.
Alors, vous avez mentionné l'entreprise Metalor à Neuchâtel, qui se défend d'avoir, elle, violé les droits humains au Burkina Faso. N'empêche, Fabio Bongiovanni, Metalor est au cœur de la tension. On imagine aussi qu'elle a un certain poids dans l'économie locale. Est-ce qu'une norme comme celle qui est proposée par l'initiative ou le contre-projet n'aurait pas le mérite quand même d'imposer une totale transparence ?
Oui, je pense, mais la question est encore une fois, comme je l'ai déjà dit, sur la problématique que peut représenter le fait que la Suisse partent toutes seules avec des normes très contraignantes, si je me réfère à l'initiative. Maintenant, pour le contre-projet, on est encore en phase de discussion, mais la problématique serait que la Suisse parte toute seule avec des moyens qu'elle n'a pas aujourd'hui ou qu'elle aurait difficilement pour faire respecter ces éléments-là, avec en plus une espèce de primauté du droit suisse qui serait appliquée, parce que les pays étrangers, ou bien en tout cas les personnes qui pourraient se plaindre du fait de la non-application des droits humains, pourraient venir poursuivre les sociétés suisses en Suisse. Et là, ça crée, à mon avis, une certaine insécurité juridique, une certaine insécurité économique pour un certain nombre d'entreprises. Et puis, à part ça, ça ressemble un peu à une espèce de colonialisme réglementaire ou juridique qu'on ne peut pas faire.
Chantal Payet, c'est un des gros enjeux, hein, même du contre-projet, à savoir dans quelle mesure on peut rendre responsables les maisons mères en Suisse d'activités qui se passent à l'étranger.
En fait, la question ne se pose absolument pas, et il n'y a rien de ces dangers qui ont été évoqués, parce que ces standards, c'est des standards de droits humains internationaux qui ont été reconnus au sein des Nations Unies, que tous les États membres et tous les lobbies économiques internationaux ont reconnus comme étant adéquats aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Et tout ce qu'on demande, c'est l'application de ces principes par les entreprises suisses. Et au fond, ce qu'on demande, c'est que l'entreprise suisse, en Suisse, prennent les mesures politiques comme ils le font pour contrôler les risques de corruption vis-à-vis de leurs filiales. Vous avez aujourd'hui un article dans le droit pénal suisse, donc c'est pénal, qui punit la corruption, y compris les actes de corruption de filiales si les mesures de diligence n'ont pas été prises, donc les mesures pour éviter que cette corruption ait lieu au Congo ou ailleurs. Et au fond, tout ce qu'on demande, c'est simplement de dire, mais pour les droits humains, il est évident aussi qu'en Suisse, il faut adopter des politiques crédibles, sérieuses, pour minimiser les risques de violation qui se font dans les filiales d'entreprises suisses. Et on sait que c'est possible, vu qu'elles le font pour la corruption, elles font des procédures de risque pour une quantité d'autres choses, et ça n'a absolument rien de colonialiste. Ça se fait pour la corruption, et c'est des standards reconnus internationalement aujourd'hui. Donc il n'y a aucune application du droit suisse à l'étranger là-dessus, je peux vous rassurer.
Fabio Bongiovanni, pour conclure, on a quand même l'impression, en vous écoutant, que une forme de risque économique pèse plus lourd, hein, qu'un idéal de justice.
Disons qu'on doit mettre dans la balance passablement de choses. Et puis encore une fois, si pour atteindre cet objectif, on est justement à contre-courant, parce que le risque serait que certaines entreprises nous disent, ben alors si c'est comme ça, je vais m'établir ailleurs, et donc je n'ai plus à respecter cette norme suisse qui me contraint avec un certain nombre d'éléments. Le risque, pour moi, il est important de voir partir un pan de notre économie, parce que de manière non concertée avec d'autres pays, on ne puisse pas imposer un standard minimum à l'ensemble des pays, et encore une fois, que la Suisse joue cavalier seul sans pouvoir atteindre les objectifs souhaités qu'on souhaite tous voir réaliser.
Merci à tous les deux d'être venus.
Chantal Payet, très rapidement. Je pense que vous manquez de confiance dans les acteurs de l'économie suisse, parce qu'au fond, je ne pense pas que vous avez des directeurs d'entreprise qui vont dire on va délocaliser parce qu'on veut continuer à violer les droits humains. Et je pense que les gens qui sont dans la rue, les millennials, beaucoup de citoyens aujourd'hui ont aussi confiance dans le fait qu'on peut avoir une économie et des entreprises suisses qui soient responsables et économiquement viables, et que ces deux aspects ne sont absolument pas en contradiction l'un avec l'autre.
C'était une amorce de débat, hein. Il continue, puisque ça se discute maintenant aux chambres fédérales. Le dernier mot reviendra sans doute au peuple l'année prochaine. Évidemment qu'on va suivre l'évolution de cette question. Merci à vous, Chantal Payet, et à vous, Fabio Bongiovanni, d'être venu dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Place Publique.